Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à tous. On vous présente une invitée en or aujourd'hui. Il s'agit de Francine Dries. Francine est devenue une spécialiste du Brain Gym, la gymnastique du cerveau. Pour faciliter l'apprentissage, diminuer l'anxiété, redonner confiance en soi, etc. Pour les enfants, mais les adultes également. On a dévoré son livre Brain Gym, Bouger pour apprendre aux éditions Hachette, qui intègre des exercices et des mouvements pour aider les enfants à développer leur potentiel, stimuler leur cerveau et leur donner confiance. Pendant cet entretien, nous avons parlé de son parcours, des bienfaits de cette méthode et de son travail pendant 3 ans dans une école primaire. Vous l'aurez compris, cet épisode est passionnant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Francine.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Francine.
Bonjour Sylvie.
Merci beaucoup de nous accorder votre temps aujourd'hui pour parler de la méthode passionnante du Brain Gym. Alors nous allons bien entendu vous poser pas mal de questions à ce sujet, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vous et notamment de votre formation et ce qui vous a amené vers le Brain Gym ?
Alors tout d'abord, j'ai fait une formation globale de kinésiologie parce que le Brain Gym faisait partie à l'époque de la grande famille de la kinésiologie. C'est un peu plus tard que le Brain Gym s'est détaché. Et moi, bon, mon parcours personnel, il est un peu, au départ, très émotionnel, puisque j'ai perdu une petite fille de 6 ans, à l'âge de 6 ans d'un cancer. Elle avait une petite sœur qui avait 3 ans et demi, qui était inhibée, choquée, qui mangeait plus trop. Voilà, donc là, pour le coup, on était dans toute une recherche pour la ramener au bonheur de vivre. Et donc, vraiment, par des recherches entre les médecins un petit peu différents, entre des mouvements qui arrivaient comme ça à mes oreilles, j'ai pu m'inscrire à la plus grande école à l'époque, puisque maintenant, ça y est, la kinésiologie est bien connue. À l'époque, c'était l'école IFKA, I-F-K-A, donc l'Institut français de kinésiologie appliquée, qui était basé sur Grenoble et qui faisait des formations sur Paris. Donc, j'ai pu me former, non pas du tout dans le but de devenir kinésiologue, mais vraiment sur mon chemin personnel pour aider ma fille et puis pouvoir m'ouvrir aussi à refaire un petit bébé derrière, ce qui est arrivé. Voilà, donc tout le soleil est rentré dans la maison. Et donc, dans ma formation de kinésiologie, qui était sur 3 ans, à l'époque, c'était vraiment une construction faite sur 3 ans, il y avait la méthode Brain Gym, donc qui a apporté pour moi toute cette sagesse de l'apprentissage pour les enfants. Et puis j'ai eu la grande chance de travailler avec Paul Denison, le créateur, et puis Paul Landon, qui a été son bras droit pendant plus de 25 ans, qui traduisait les livres, qui le traduisait pour ceux qui ne parlaient pas français, parlaient pas anglais, pardon. Et donc, ça a été très riche pour moi de pouvoir accéder à cette technique, voilà, grâce à et le créateur et celui qui a été vraiment le grand Paul Landon. Ça a été vraiment celui qui a défendu, qui a failli faire rentrer le Brain Gym à l'école dans les années, dans les années 98, 99, oui, juste avant 2000, oui. Il était pas loin,
il a pas réussi.
Pas loin. Non, parce que vraiment, le Brain Gym était encore trop dans les mémoires associées à la kinésiologie. Et à cette époque, la kinésiologie avait un petit peu des problèmes d'éthique. Il a fallu bien clarifier ce qu'on faisait avec un test musculaire. Certaines personnes en ont un peu abusé, hein, puisqu'on teste uniquement le stress de la personne. On teste pas si on va bien, on va pas, si on divorce pas, si on peut manger ça ou pas. Il y a eu pas mal de, comme un petit peu dans toutes les découvertes, hein, on va toucher un peu les limites, je pense, de ces découvertes. Alors du coup, le Brain Gym était trop associé, trop collé à ce qui se passait à l'époque, ce qu'on disait de la kinésiologie. Ce qui a fait que il était, mais vraiment à deux doigts, il faisait partie de la Fédé. Il était à deux doigts de le faire rentrer dans l'éducation nationale. Voilà, ce qui s'est pas fait, mais bon.
Incroyable.
Voilà, qui s'est bien démocratisé depuis.
Oui. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est la kinésiologie ?
Ouais, tout un programme, la kinésiologie, parce que ça veut pas dire grand chose, ça veut dire science du mouvement. Donc, c'est l'idée qu'on dialogue avec le corps par le test musculaire. Notre tonicité musculaire est empreinte de nos stress. Tous les stress s'inscrivent dans les muscles. Et donc, le premier qui a créé cette technique, c'est, je trouve plus les noms tellement j'en ai associé avec le plan de techniques se sont mélangés. C'est John F.C. qui a fait le Touch for Health, donc la santé par le toucher. Et qui a fait qu'il était chiropracteur, lui, il a vraiment décelé qu'avec un test musculaire, en testant la tonicité, on peut aller chercher les stress, les blocages, qu'ils soient au niveau émotionnel. On travaille sur le plan structurel, bien sûr, puisqu'on travaille avec les muscles, et on travaille sur l'énergie. Donc, il y a à la fois des techniques tout à fait empreintes au yoga, tout plein de corrections qui sont vraiment très occidentales. Et puis, on se base beaucoup sur la médecine chinoise. Donc, c'est très, très, très global. On appelle ça maintenant les techniques holistiques, puisqu'on accueille la personne dans sa globalité et on va pas pointer du doigt un problème. On va plus partir sur qu'est-ce qu'elle veut pour elle, quel objectif elle a pour elle. Alors, il y a toujours un exemple qui me plaît quand je reçois les gens en séance, c'est que quand on arrive, on parle toujours de notre problème, bien évidemment. Donc, j'ai du mal à dormir, j'ai du mal à digérer, je suis triste en ce moment, je m'en sors pas, etc. Je suis confuse, etc., etc. Et donc, assez rapidement, après avoir écouté les personnes, je leur demande, mais qu'est-ce que vous voulez ? Et bien évidemment, on dit toujours, mieux, je veux être bien, cool, être heureux, etc. Alors, je leur donne toujours l'exemple du billet de train. Si on arrivait à la gare, même si aujourd'hui on va plus trop au guichet, mais admettons qu'on aille encore au guichet et qu'on demande à la personne, je ne veux pas aller à Bordeaux. Donc, le type en face se dit, ok, c'est parfait, vous voulez aller où? Non, mais je veux pas du tout descendre à Marseille. C'est pas possible pour moi. Me parlez pas de la montagne, j'irai pas à Grenoble. Et donc au bout d'un moment, oui, mais vous voulez aller où? Et on réalise pas qu'en fait la première marche, le premier ticket qu'on prend, c'est déjà de savoir ce qu'on veut. Et quand on est sans arrêt dans notre esprit à parler de ce qu'on ne veut plus, on ferme toutes les portes de notre esprit pour dire « Ok, mais si par exemple je n'avais plus mal au dos, ça me permettrait de faire quoi ?» Et donc le corps voilà va fonctionner comme ça beaucoup avec un objectif et nous on va partir avec des tests musculaires pour aller retirer les blocages, pour laisser passer l'énergie, pour effectivement se remettre en mouvement pour ce qu'on veut.
C'est super intéressant.
Voilà, si j'étais à peu près claire, parce qu'on pourrait en parler
des
heures.
Non, c'est super clair. Alors, et vous êtes spécialisée notamment dans le... Oui, pardon, allez-y.
Oui, je veux juste vraiment insister, puisqu'on va beaucoup parler ensuite du brain gym, je veux vraiment insister sur le fait que la kinésiologie regroupe plein de techniques. Alors le touch for health, parce que ça a été l'origine, le 3 en 1, parce qu'on va chercher beaucoup de blocages et même repartir un petit peu dans le temps pour voir où est-ce que ça s'est inscrit en nous. Mais le brain gym s'est vraiment détaché pour former et créer l'éducation kinesthésique. Voilà, pour aller vraiment chercher... voilà. Je veux vraiment le préciser parce que ça a été tellement le souhait de Denison que voilà, je veux insister pour vraiment respecter son cheminement.
Et super intéressant, merci beaucoup. Et je voulais aussi savoir quelque chose par rapport à votre parcours, c'est que vous êtes rapidement spécialisée dans le suivi d'enfants et d'adolescents. Mmh. Et j'aurais aimé savoir pourquoi.
Alors bien évidemment de mon parcours, hein, puisque c'était ma démarche au départ, c'était de ne travailler qu'avec les enfants, puisque je m'étais tellement émerveillée de voir que ma petite puce revenait à la vie, que j'avais pu moi-même refaire un bébé. J'ai eu un petit garçon quelques années plus tard. Pour les accompagner, en fait, hein, ma fille commençait à arriver à 8-10 ans. J'avais vraiment envie d'accompagner mes enfants dans... Je sentais bien que les blocages d'un enfant qu'on dit « apprentissage scolaire » se logeait bien ailleurs que dans il est doué pour les maths, il est doué pour le dessin, il a du mal à écrire, du mal à lire. Je me suis assez rapidement rendu compte que les blocages étaient bien ailleurs que dans un fonctionnement purement où on va même dire pendant un temps on disait même les petits garçons sont doués pour les maths, les filles pour le français. Donc voilà, tout ça m'a passionnée pour accompagner mes enfants. Et puis, en accompagnant les enfants, en réalité, j'ai reçu les parents, forcément. Les enfants n'arrivaient pas tout seuls. Et ensuite, du coup, j'ai reçu les adultes, les parents, etc. Mais ça a toujours été ma base, c'était d'accompagner les enfants. Et puis, comme les miens grandissaient, bah, c'est fait comme l'école de Sylvie qui, finalement, a grandi avec ses enfants. Voilà, moi, ma passion, c'est... a grandi au fur et à mesure que mes enfants grandissaient jusqu'à pré-ado, ado. Et je continue.
Super. Alors maintenant, j'aimerais que vous partagiez un peu plus votre expertise autour du brain gym et que vous nous expliquiez en quoi ça consiste.
Ok, alors brain gym, on est d'accord, hein, gymnastique du cerveau. Denison a créé un ensemble de 21 mouvements et activités où on va, vous comprendrez mieux tout à l'heure quand on va partir un petit peu sur les fameuses trois intelligences. Denison, il a été, lui, très, ça a été très compliqué pour lui, l'apprentissage. En plus, il avait des problèmes de vue. En plus, à l'époque, on avait des culots, hein, sur nos verres. On n'avait pas, les petits verres qu'on fait maintenant. Donc ça a été vraiment très très compliqué pour lui et il s'est rendu compte en grandissant que si il tordait un petit peu tout ce qu'on lui proposait comme technique ou comme approche, en fait bah, le dyslexique est bien plus intelligent entre guillemets, grosse guillemets, parce que le cerveau va chercher à contourner le schéma classique. Et donc il s'est rendu compte que tout ça avait à faire avec son cerveau, son corps, sa vision. Et donc, dans les années 60, il s'est mis en recherche de techniques. Il s'est vraiment spécialisé là-dedans. Mais le brain gym, faut vraiment comprendre que cette gymnastique du cerveau, elle est très, très méthodique. Elle est très structurée dans nos trois dimensions corporelles. Et donc, si je suis en accord entre mon corps et mon cerveau, tout ce qui fonctionne, tout ce qui communique entre les deux, à chaque fois qu'on voit bien que quand on fait un mouvement, on sait très bien que c'est le cerveau qui l'a commandé. Et il est tellement plus rapide que nous, puisque au moment où je décide de me lever, lui, il a déjà tout mis en place au niveau des muscles concernés pour nous faire réaliser le fait de nous lever. C'est complètement fou, hein, quand on y pense. On est assis, on dit, tiens, je vais me lever. Mais le cerveau, lui, il a déjà commandé tous les muscles nécessaires au fait qu'on puisse se lever. Donc, lui, il est parti à l'envers. Il s'est dit, mais si on faisait des mouvements pour activer le cerveau, puisque le cerveau active notre corps. Donc, il a répertorié, après, ça a été une recherche sur plus de 20 ans, hein, mais il a répertorié vraiment plein d'exercices qui vont libérer les connexions qui se font sur nos trois dimensions. Donc, nos trois dimensions corporelles, comme à la base, hein, le cerveau, maintenant, on a beaucoup évolué avec les neurosciences, mais à la base, on parlait des trois cerveaux. On a été construit sur trois cerveaux. Si on voit notre dimension de notre gauche à notre droite, notre cerveau néocortex, notre intelligence, le dernier cerveau, il va communiquer entre le cerveau gauche et le cerveau droit. C'est donc le corps dans son côté gauche et dans son côté droit qui va bouger et nous permettre d'activer ces deux hémisphères. Donc ça va être une possibilité pour nous de communiquer avec nous, de nous à nous, du cerveau gauche au cerveau droit, mais de communiquer à l'extérieur. Comment je communique vers l'extérieur? Ensuite, on a la dimension au bas, entre notre tête et notre corps. La tête qui réfléchit, le corps qui agit, qui est relié avec le limbique, le cerveau limbique, donc nos émotions. Et donc, c'est comment je me sens stable, comment je peux être stable dans mes émotions pour pouvoir me permettre de faire quelque chose avec une organisation. Je vais pouvoir m'organiser. Et on voit bien les enfants, hein, qui n'arrivent plus à s'organiser. C'est le bazar sur le bureau, ils retrouvent plus leurs trucs. C'est toujours émotionnel. Si je suis pas organisée dans mes émotions, si j'ai pas assimilé ce qui se passait, si je me suis pas écoutée dans mes émotions, je suis incapable de m'organiser. Et on le sait bien, nous, que quand on rentre chez nous puis qu'on est perturbé par nos émotions, on est bien fichu de mettre les clés dans le frigo. On sait très bien que les clés ne se rangent pas dans le frigo. Ok? Et les enfants leur disent, mais je comprends pas pourquoi tu fais ça, et on trouve c'est très bizarre ce qu'ils font. C'est pas bizarre, c'est juste que c'est pas rangé. Et donc, je ne peux pas m'organiser si mes émotions ne sont pas rangées, assimilées, comprises et ressenties. Donc ça, c'est vraiment la dimension au bas. Et puis, passionnante troisième dimension qui est de l'avant à l'arrière. L'avant, c'est notre fameux néocortex où je suis capable de créer quelque chose, d'inventer quelque chose avec le frontal, toute la partie frontale du cerveau, avec tout l'arrière qui a acquis ce que j'ai déjà appris. Alors, on sait que de ce point de vue-là, si je peux me connecter entre l'avant de mon cerveau et l'arrière, je vais pouvoir comprendre. Souvent, on dit à un enfant, apprends par cœur. Ok, il apprend pas. Est-ce qu'il a compris pour autant? Pas forcément. Donc, s'il peut connecter entre ces deux dimensions, enfin ces deux côtés, entre l'avant et l'arrière, on parle donc de la compréhension. Ok, je peux te répéter avec mes mots ce que j'ai cru comprendre de ce que tu m'as expliqué. Il y a une petite histoire très drôle quand on demande la route à quelqu'un puis qui commence à nous expliquer. Alors, vous voulez aller vous chercher le port de nanana. Alors, vous allez à gauche, vous allez à droite, vous traversez, il y a un gros rond-point, bon, plein de directions. Et souvent, on dit « Ok, ok, merci ». Et là, la personne qui a indiqué dit « Non, non ». Ne me dites pas merci, répétez. Et on est souvent incapable de répéter.
Incapable.
Il nous a expliqué de tourner à gauche, à droite, qu'il y a un rond-point, on passe sur un pont, etc. Donc on est vraiment dans cette dimension avant-arrière qui va nous permettre de libérer pour nous et d'avoir la capacité de comprendre les choses et de pouvoir de nouveau les exprimer. Et c'est terrible de voir regarder physiquement un enfant qui a un intérêt, on parle de l'intelligence attentionnelle, il a un intérêt, il a son corps, ah, il se déplace vers l'avant, ce qu'il écoute bien la maîtresse ou le prof. Alors que si on dit qu'il est rêveur, le corps va s'installer vers l'arrière, il va pas être porté attention, donc il va pas communiquer avec l'avant, l'arrière, il va rester plus en arrière. Celui qui est trop focalisé, il est trop stressé, il veut trop comprendre, alors il se penche en avant pour à tout prix rien louper. Alors, ce qu'on veut, c'est être capable d'écouter, prêter attention, puis de se mettre en arrière, d'intégrer le truc, de se reporter en avant. Et ça, c'est le corps qui parle, qui le voit, qui va le manifester. Donc on voit bien qu'on est dans ces trois dimensions. Donc le travail de Paul Delisson a été extraordinaire dans sa démarche d'aider et de libérer l'apprentissage. Il dit toujours d'ailleurs, je veux que l'apprentissage redevienne naturel. Ça ne doit pas être difficile, ça ne doit pas être un effort. C'est juste si on est bien présent à ce qu'on écoute, à ce qu'on fait et qu'on est motivé, il n'y a pas de raison. En fait, d'avoir des problèmes d'apprentissage.
Ça, c'est certain. Et alors, si je comprends bien, avec le Brain Gym, donc vous allez proposer une succession d'actions avec le corps,
oui,
pour envoyer ces messages au cerveau.
Exactement. En fait, on peut l'aborder différemment. Moi, j'ai justement, par la demande d'une journaliste qui m'avait interviewée sur un tout petit manuel que j'avais fait et auto-édité, il m'a dit, ce serait bien que les parents aient un peu accès. Alors, comme maintenant c'est démocratisé, on a pu le faire. Sinon, il y avait que la référence magnifique du livre de Paul Denison, Le mouvement clé de l'apprentissage. Alors, l'idée, c'est soit on sait qu'on travaille de manière globale, hein, toujours dans le même esprit, et on va proposer plusieurs exercices en alternant, bien sûr, des exercices qui vont être attachés pour la dimension au bas, qui vont être attachés pour la dimension avant-arrière et de même pour gauche-droite. Du coup, on sait que là, on équilibre tout le temps de manière... C'est un petit peu comme un enfant qui va faire du basket. On va pas sans arrêt lui dire « cherche à marquer des paniers ». Il faut qu'il puisse se déplacer sur le terrain de jeu. Donc, on va proposer différents exercices qui vont effectivement... rallumer, reconnecter des zones qui ont été inhibées par le stress. Et puis, il y a la partie vraiment professionnelle où celui qui va être souvent kinésiologue, hein, au départ, puisque ça vient de là, ou sinon on dit que c'est un praticien en éducation kinesthésique, va observer l'enfant dans son corps en le mettant déjà dans sa problématique. Il faut déjà qu'on le mette dans sa dans son stress, entre guillemets, lui dire t'as des problèmes de lecture, bah vas-y lis. Et puis du coup on va observer comment son corps se comporte. Il y a beaucoup les yeux aussi, hein. Si ses yeux, vous savez, quand les enfants ils se mettent sur le côté, puis en fait ils n'utilisent qu'un œil qui voit vraiment bien le cahier ou le livre. Un enfant qui va se mettre complètement couché sur le côté, il s'appuie sur son coude. Voilà, donc toute la posture sera observée, puisque dans le temps, on testait quel exercice il fallait donner. L'éducation kinesthésique a complètement retiré le test musculaire et est partie vraiment sur l'observation de l'enfant ou de l'adulte, hein, parce que c'est pas que pour les enfants, pour étudier sa posture et effectivement proposer une série d'exercices. Sachant que c'est comme le brossage des dents, si on le fait qu'une fois tous les 15 jours, ça va pas suffire.
D'accord.
Le Brain Gym, c'est magique, mais c'est comme la douche, c'est comme les dents, c'est tous les jours. Ça, c'est je dis toujours, hein, ça marche à 100%. C'est juste, il faut le faire régulièrement. Il vaut mieux pas le faire longtemps, mais régulièrement. Et toujours dans le jeu.
Et il faut le faire à quel moment de la journée ?
Moi, je suis pas du tout restrictive, puisque la politique, et c'est pas beau dire politique, la philosophie de Paul Denison est bien l'idée du jeu pour retrouver la motivation. On n'a jamais grondé un bébé pour qu'il apprenne à marcher à quatre pattes, je crois pas, je connais personne qui ait fait un truc pareil.
On n'espère pas.
On n'espère pas, en tout cas. Et donc, tout apprentissage est basé sur le jeu. Tout est basé sur le jeu. Donc, l'idée, c'est, alors, vous connaissez les familles, hein. Il y en a qui partent tôt le matin, il y en a qui, l'enfant rentre le midi, d'autres qui sont à la cantine. Donc, moi, je leur dis, quel est le moment le plus approprié où tu penses que tu pourras faire les exercices avec un de tes parents? Jamais seul. Toujours motivé. Toujours on s'amuse. C'est trop facile de dire à l'enfant, t'as des problèmes? Vas-y, fais ton petit exercice. On a les mêmes problèmes, on a les mêmes fatigues, on a les mêmes stress. Donc nous, ça nous fait un bien fou de faire des exercices aussi. Donc l'idée, je propose toujours de faire une pause en rentrant de l'école et puis de faire quelques exercices avant, par exemple, de faire les devoirs. Mais du coup, on pourrait dire, tiens, j'associe encore ce truc avec les devoirs. Est-ce vraiment, bien amusant? Donc, je laisse vraiment les parents dans leur organisation avec l'enfant faire prendre le choix de l'horaire. Par contre, je suis toujours, je lâche pas le truc, c'est pratiquement tous les jours, sinon ça sert à rien.
Et les exercices, ils durent longtemps?
Non, on les fait 3-4 minutes. Donc, on en propose 3. On en a pour 10 minutes, un quart d'heure. Lavage de dents. Allez, pareil, j'exagère. Lavage de dents, on se lave pas les dents pendant un quart d'heure. Mais voyez, dans l'idée, c'est vraiment simple. Ils sont toujours ludiques. On peut le faire en musique. C'est sympa de le faire à plusieurs. Moi, je donne toujours mon exemple. Et c'est ce qui m'a fait d'ailleurs écrire le petit livre au départ. On a une maison qui a brûlé en 2006. Bon, tout va bien. On perd que les meubles, tout super. Mais du coup, les enfants étaient très choqués. Mon fils était il venait de rentrer au lycée. Il devait avoir 15 ans. Et ma fille, remariage. Donc, ma petite belle-fille était au collège. Donc, on sèche, on est traumatisé, on a perdu toutes ses affaires, blablabla. Bon, on retire le drame de tout ça, puisqu'on est en vie, et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on commençait aussi à être un peu ronchon, un peu victime. Oh, on est malheureux, gna 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 gna. Donc, on s'est dit, bon, allez, on arrête un peu le cirque. Là, ça fait 3 mois qu'on est en train de cafarder sur notre pauvre petite histoire. Donc, on a des outils. Allez, on les fait tous les jours. Donc, on les a fait, alors vraiment au pif. Hein. Qu'est-ce que t'as envie de faire ce matin? Plaf, plaf. Donc, on essayait d'équilibrer, mais ils en faisaient 5-10 minutes, pas plus. On faisait le matin avant de partir, tous. Et ça a été, mais fou, quoi. C'est fou. On rallume le possible, on rallume les connexions. Je suis pas coincée en arrière, je suis pas bloquée par ce qui m'est arrivé. On va pouvoir, entre le cerveau gauche et le cerveau droit, être autant intuitif que logique. Ah, nos émotions, ça y est, on commence à les laisser sortir. On se reconnecte à soi-même, c'est génial. Donc c'est comme ça qu'après j'avais fait un petit manuel.
Incroyable.
Mmh. Oh, c'est souvent de notre histoire personnelle qu'on fait des trucs chouettes, hein.
Oui. Ah, ça c'est sûr.
Hein, c'est vrai, hein. Parce que c'est du vécu, parce qu'on sait que ça nous a vraiment fait du bien. Ouais. Moi, je trouve que tout ce que j'entends autour de moi, en tout cas, il y a des histoires tellement magnifiques. À chaque fois, c'est toujours une histoire personnelle.
Bien sûr. Et vous avez beaucoup travaillé avec les écoles, et notamment, vous avez travaillé pendant plusieurs années dans une école. Nous, ça nous intéresse beaucoup, parce qu'en plus, il y a beaucoup d'enseignants qui nous écoutent. Est-ce que vous pourriez nous partager un petit peu plus cette expérience?
Ça, c'était vraiment, après avoir fait ces 3 années de mon école IFCA, j'étais encore en région parisienne. Et tout comme Sylvie, il y avait une dame dans ma petite ville, qui était, elle, par contre, enseignante, il me semble, en fac, ça fait des années, je l'ai plus vue, et qui avait, ses enfants étaient partis. Donc, c'est pas comme Sylvie qui a fait grandir l'école avec ses enfants, c'était l'inverse, elle avait fait tout son cursus, elle, les enfants étaient partis, ils habitaient dans un pavillon, et elle s'est dit, et si je faisais école? Dans ma maison. Donc les chambres étaient devenues les classes, la cuisine était devenue la cantine, Leur double salon était l'espace où on pouvait se retrouver pour... Il y avait du théâtre, ils allaient au Poney Club. Elle était dans l'approche Montessori, les enfants pouvaient se lever puis aller chercher des livres pour comprendre un mot. Il y avait le respect de comment chacun était allumé pour faire plutôt des maths, plutôt de la lecture, etc. C'était plus sous forme d'atelier, mais toujours avec quand même vraiment ce grand respect de l'académie et de suivre le programme. Alors, elle faisait du CP au CM2. J'ai eu connaissance, amis d'amis, hein, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Je suis allée la voir et j'étais tellement émerveillée de voir tout ce qu'elle apportait aux enfants. Donc, c'était vraiment une toute petite école, hein. Ils étaient, 40, tout confondu. Donc, il y avait des enfants qui, au contraire, étaient vraiment ce qu'on appelle maintenant des hauts potentiels. Il y avait, au contraire, beaucoup d'enfants qui étaient plutôt du côté des 10, dyslexiques, dysphasiques, dysorthographiques. Des enfants de parents divorcés, enfin, un peu de tout. Je me souviens, il y avait même un enfant handicapé qui était dans un fauteuil roulant. Elle avait tout aménagé, tout ça. Et je lui ai proposé d'expérimenter, puisque je sortais vraiment de l'école. Je voyais beaucoup Paul Landon à l'époque. Je faisais partie de toutes les réunions de la Fédé, tout ça. Et j'avais envie de vivre cette expérience pour que ce soit pas seulement le côté on va voir un thérapeute parce qu'il y a un problème. C'était comment ça pourrait se véhiculer au sein de l'école. Donc, on avait mis en place. Moi, j'étais au fond de la classe, comme j'ai pu l'être parfois quand j'étais plus petite. Bref, j'étais au fond de la classe et j'observais les enfants. Ensuite, en fonction de comment je sentais la tendance, s'ils étaient plutôt agités, s'ils étaient complètement rêveurs, s'ils étaient à pas du tout arriver à communiquer, à participer à la classe, alors hop, j'interrompais la... bien sûr avec son accord, l'instit, j'allais sur l'estrade, oh là là, magique de retourner sur l'estrade, quand on fait du brain gym, et je proposais quelques exercices en fonction de ce que j'avais pu observer, et on le faisait tous ensemble dans la classe, et l'instit avec, et là par contre on prenait pratiquement une demi-heure pour que je puisse avoir... dans chaque classe, il y avait 3 classes, la possibilité d'observer si l'enfant faisait pas n'importe quoi histoire de me faire plaisir, mais qu'au bout du compte, ils arrivent à faire les exercices. Donc, comme c'était des groupes, on prenait tranquillement une demi-heure d'exercice. Ensuite, j'avais proposé de décliner des ateliers à 8 élèves, où là, j'étais vraiment dans la correction de l'exercice, et puis j'écoutais un peu plus leur problématique. Puis on déclinait sur 4, où là c'était beaucoup plus personnel, individuel, que je regroupais par problématique. Des enfants qui arrivaient pas à s'exprimer, d'autres qui étaient très agités, d'autres qui arrivaient pas à dire ce qu'ils ressentaient, d'autres qui n'arrivaient pas à participer. Donc on était comme ça sur... Et je l'ai fait pendant 3 ans.
Super.
Voilà. Bon, après, j'ai divorcé, je suis partie, changé de région, mais j'aurais pu continuer très longtemps comme ça. C'était super.
Justement, moi, j'ai connu la méthode Brain Gym, et vous, grâce à une de nos enseignantes qui avait suivi une formation en Brain Gym et qui met ça en place dans son école à Monterland tous les jours. Donc, ça existe des formations pour les professeurs des écoles pour qu'ils puissent faire des séances à toute la classe, je pense.
Bien sûr, de toute façon, il faut comprendre que la kinésiologie ou l'éducation kinesthésique, donc le brain gym, il n'y a pas de prérequis, c'est ouvert à tout le monde. Donc, le brain gym étant tellement spécifique à l'apprentissage que c'est la majeure partie de ceux qui se forment, ce sont des éducateurs, des instits, des profs, des parents, bien sûr, qui ont vraiment envie de s'investir pour leurs enfants. Des orthophonistes, parce qu'ils sentent qu'il y a une limite à l'orthophonie, forcément, puisqu'on travaille sur les deux hémisphères, alors que l'orthophoniste va aller dans l'air du langage, dans l'hémisphère gauche, mais que si l'hémisphère droit, il n'a pas pris ça dans son ensemble, ça va pas plus avancer. Donc, Moi, j'ai, ben oui, j'ai connu beaucoup d'orthophonistes qui effectivement avaient envie d'aller plus loin. C'est-à-dire que eux, c'est super, ils ont leur technique qu'un kinésiologue n'a pas. Ils vont faire tous les exercices pour faire travailler les enfants. Mais s'ils rajoutent le brain gym, c'est super. Donc oui, oui, il y a des formations, mais il n'y a pas, par exemple, de formation spécifique pour les instituts ou les profs. C'est le brain gym est ouvert à tout le monde.
Ah oui,
c'est super.
Mmh. Moi, nos enseignants de toutes nos écoles ont fait une formation là-dessus pendant une journée en début d'année. Ils ont vraiment adoré ça, quoi.
Ouais, c'est génial. C'est vraiment super.
Ah ouais.
C'est vraiment. On comprend
même aux
tellement
adultes,
de choses.
Aux adultes, ça. Ah, puis aux adultes, ça leur apporte beaucoup aussi, je trouve.
Ah ben bien sûr. Mais bien sûr. C'est pour ça que je dis toujours, on est des apprentissages toute notre vie. On est des apprentis sages toute notre vie.
Sages, ouais,
oui. Bien sûr. C'est quand on est, et on le voit bien en ce moment, hein, quand on est dans un stress, qu'il faut s'adapter, alors il y a toujours une partie de nous qui s'inhibe. Il y a toujours une partie de notre cerveau qui s'inhibe en fonction de nos vies, de nos expériences. Moi, par exemple, en ce moment, je dis souvent, je me suis jamais, ça choque tout le monde, hein, je me suis jamais sentie aussi libre. Ça paraît complètement dingue, mais parce que tout est tombé, tout s'est écroulé. Donc moi, dans tout s'écroule, je suis libre. Je peux imaginer les choses autrement, réinventer mon métier, le proposer différemment. La preuve, j'aurais jamais imaginé faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc oui, on est dans une situation compliquée, mais qui peut amener à créer beaucoup de choses. Et donc voilà, c'est on a tous une inhibition quelque part. Hein. Donc le brain gym est effectivement autant pour les adultes que pour les enfants.
Et vous avez vu de belles progressions de ces enfants de cette classe pendant vos 3 années de suivi?
Ouais, c'est ça qui était super. Ça c'est vraiment extraordinaire de voir que en fait on ramène vers l'équilibre celui qui ne participait pas trop participe un peu plus. Celui qui prenait toute la place revient à lui pour se rencontrer, pour connaître ses émotions et donc être en accord, en harmonie avec les autres. Tout ce qui est de problèmes de dyslexie. Alors, à partir du moment où il n'y a pas une dyslexie grave en sens où là, il faut vraiment voir le kinésiologue, le praticien en brain gym qui va aller plus loin et même plus loin que le brain gym. En plus, il y a tout un aspect psychologique, etc. Mais c'était génial de voir que il y avait moins de fautes, il y avait des meilleures notes, il y avait des inhibés qui devenaient un peu plus ouverts, des petits timides qui s'exprimaient plus. Vraiment, c'était... Ah oui, moi, c'est ça qui a été magique. C'est qu'un enfant que vous voyez en consultation, vous le voyez 2-3 fois. Alors que là, c'était... D'ailleurs, on s'y attache drôlement. Hein. Vous êtes toute l'année avec les enfants. On s'y attache et puis on voit comment ils évoluent, ce qu'ils ont révélé comme capacité que eux-mêmes ne connaissaient pas. Un peu plus de confiance en soi. Enfin, c'est extraordinaire de voir ça. Oui, ça a vraiment été chouette pour ça.
Super. Moi, je suis un peu triste parce qu'on arrive déjà à la fin et tout ce que vous racontez est juste passionnant. Mais je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux enseignants ou même aux parents qui nous écoutent, qui sont intéressés par le brain gym? Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner à ces gens-là?
Surtout de voir l'enfant dans sa globalité, dans son potentiel. C'est vraiment l'ouverture de Brain Gym et c'est ce qui, moi, m'a tellement intéressée. C'est qu'en fait, on est dans une société qui amène de plus en plus d'étiquettes en kinésiologie. En Brain Gym, on dit jamais qu'un enfant est dyslexique. On l'accueille parce qu'on nous dit qu'il est dyslexique, mais on va jamais dire ça. Donc, c'est vraiment d'accueillir l'enfant avec son potentiel et de pas mettre l'énergie sur ce qui semble être le problème. C'est la magie de l'ouverture et après, bien sûr, de faire les exercices de brain gym et autres. Il y a plein d'autres choses que le brain gym. Mais globalement, dans la vision, dans sa classe, dans chaque enfant ou chaque petit groupe qui est formé, c'est un exercice, hein, pour nous, hein, de regarder le potentiel plutôt que le problème.
C'est sûr. Ça, je pense que Sylvie est d'accord.
Ah oui, là,
c'est
tellement
vraiment
vrai.
Une clé,
mais j'en peux plus des étiquettes, moi, et de voir ce qui va pas plutôt de voir ce qui va.
Oui.
Donc, c'est comme ce que vous dites pour les dyslexiques, ils sont très intelligents, c'est ce qu'il faut pas arrêter de leur répéter, en fait, les pauvres.
Oui, oui.
Oh là là.
Et je sais que tu vas y arriver, et qu'est-ce que c'est chouette de te voir progresser. Vous aviez vu, juste en deux secondes, moi j'avais pleuré sur cette vidéo, une vidéo qui était passée sur des réseaux sociaux où, je ne sais plus dans quel pays, l'instituteur est à l'entrée de la classe, et à chaque enfant, il lui claque la main comme un petit chèque, mais sauf qu'à chacun, il lui dit pas la même chose. Il lui dit « qu'est-ce que tu m'as fait rire hier ?» À l'autre, il lui dit « qu'est-ce que t'as été opportun de me dire ça hier ?» Qu'est-ce que t'as été futé de faire, qu'est-ce que tu as été gentil d'avoir aidé ton voisin ? Et à chacun, il lui donne sa particularité. J'ai pleuré vraiment.
C'est beau.
C'est, non, mais parce que c'est tellement ça, on est tellement unis.
Mais oui, c'est ça. Ouais, c'est
bien
ça.
Bien sûr. Mm-hmm. Ben, merci beaucoup, Francine, c'était magnifique.
Un grand plaisir
pour
moi.
Merci pour ce
beau moment. Merci beaucoup.
Et bravo pour votre initiative. À toutes les deux.
Merci, c'est gentil.
Et je vous souhaite plein de belles choses, plein de lumière, plein de mouvement, plein de joie, plein de dynamisme pour vos projets.
C'est sûr.
Merci
à
beaucoup.
Vous aussi.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.